Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et aujourd'hui je suis accompagné de l'éternel Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors cette semaine, SmackDown avait lieu à Indianapolis dans l'Indiana. Eh oui, tout simplement.
Eh oui, tout
c'est
simplement.
C'est pas compliqué. C'était donc le 7 mars 2017 et au menu de cet épisode, Shane McMahon et Daniel Bryan font le récap d'un récap. John Cena est un robot incapable d'aimer. Becky Lynch est l'adaptation irlandaise de Chucky. AJ Styles et Randy Orton se disputent l'honneur d'être l'agneau pour les Roots and All, sacrifié de Bray Wyatt à WrestleMania. Donc je vous ai parlé, hein, Shane McMahon et Daniel Bryan, hein, qui font l'intro de SmackDown, hein, pas trop l'habitude, hein, de ce genre de SmackDown, de, oulala, de séquences dans le show bleu. Donc ils sont pas d'accord sur l'affiche de WrestleMania, sur le main event de WrestleMania. Daniel Bryan, à la surprise générale, en tout cas à ma surprise, prêche pour Randy Orton,
oui,
hein, qui a revalidé son ticket du Rumble, alors que Shane, quant à lui, veut AJ Styles, qui s'est qualifié vaillamment dans les semaines passées, hein, qui est donc avait obtenu le statut de first contender. Shane d'ailleurs qui dit que c'était jamais arrivé qu'un gagnant de Rumble abandonne son shot. Je serais tenté de dire que bah si mec, d'ailleurs c'était ton père. Rappelez-vous quand le père McMahon avait remporté le Rumble.
Oui, c'est vrai.
Il avait c'était The Rock, hein, qui l'avait remplacé, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
En ayant éjecté
bien vu. Ouais, parce que justement en plus je me faisais la remarque, je me dis bon écoute, je le crois sur parole parce que en effet, j'ai pas d'exemple en tête. Mais
alors,
oui.
Ce n'était certes pas un catcheur en tant que tel, mais malgré tout, c'était quand même le gagnant du.
Ah, c'est quand même un abandon de.
Abandon, donc voilà. Je vous laisse, si vous intéressez à cette histoire, bah, c'est l'occasion de lancer votre network. C'est sûrement quelque part bien rangé dans les archives. Donc ils sont gentils, hein, Daniel Bryan et Shane McMahon. Hein, ils nous expliquent pendant 20 minutes toute l'histoire. On nous rediffuse les images qu'on venait de voir juste au début de SmackDown, hein, donc on a un repackage vidéo du package vidéo.
Ouais,
c'était assez long. Merci Captain Evidence, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, hein? Dites, hein? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Se pose la question. Alors, tout le monde a évidemment compris ce qu'ils allaient faire. C'est un peu le booking, hein, le plus lent de l'histoire de SmackDown. À ce moment-là, j'en étais presque à demander le retour de Teddy Long. Au moins, lui, il bookait tout le temps les mêmes matchs, mais il le faisait vite et bien.
Ouais.
Daniel Bryan, hein, visiblement, qui n'assume donc pas, hein, sa décision prise il y a quelques semaines, hein, qu'il avait ôté le title shot de Randy Orton, en tout cas qu'il avait accepté sa demande. On aura donc un first contender match entre l'actuel first contender et l'ancien first contender.
C'est ça.
Ce sera donc le main event de ce soir. Je te propose de garder ça vraiment pour la toute fin. Juste un rapide mot sur cette séquence. Qu'en as-tu pensé, Giscal ?
Bah ouais, c'était long. Je suis d'accord. J'ai pas compris en fait l'intérêt. On avait l'impression d'être à Raw en fait. Non mais on n'a pas l'habitude de ça à SmackDown en fait. Le côté figure d'autorité qui vient un peu court-circuiter l'ouverture du show avec un segment de 15 minutes. On pensait qu'on était à l'abri de tout ça.
Bah ouais.
Si ce qui était déjà sur les réseaux sociaux depuis une semaine, c'était bizarre. Alors après, on en reparlera au niveau du booking de la feu de AJ Styles, Shane McMahon qui se profile. J'ai quand même trouvé que le procédé était relativement intelligent, mais c'était long. C'était très long.
Ouais, c'était très long. Et la logique est quand même assez ahurissante. Moi perso, juste je ne pige pas pourquoi. Genre t'arrives, tu fais je démissionne et puis après non mais en fait reprenez-moi, ouais d'accord, pas de problème.
Il n'avait pas trop dit ça. Il avait dit « Je ne t'affronterai pas pour le titre tant que tu seras le maître et que je serai le servant. » Il n'a pas dit «
Oui,
J'abandonne mon title shot. »
Ça, c'est la version entre les deux. Mais vis-à-vis de Daniel Bryan, oui. Dans le Talking Smack, on en reparlera d'ailleurs parce qu'il y en a eu un excellent cette semaine, il avait quand même dit que, visiblement, Randy Orton avait vraiment validé le fait qu'il ne voulait pas affronter, en tout cas, il refusait son title shot. Bon. Toujours est-il que ce soir on aura un match pour décider du véritable first contender. Mais avant ça, on avait droit à un match qui avait été teasé et officialisé, on va dire quasiment par John Cena lui-même, puisqu'il s'agit d'une rencontre entre John Cena et sa chère et tendre Nikki Bella, hein, le nouveau couple à l'écran, hein, en tout cas sur le ring, face à James Ellsworth et Carmella. Le nouveau presque couple. Donc ce soir, les quatre s'affrontent dans un tag team mixed match. James Ellsworth, hein, c'est lui qui fait l'intro, il est sur le ring, il se la pète, hein, dans son nouveau look 100% swag. On dirait d'ailleurs un mini Enzo Amore. Il a piqué un peu des fringues léopard de Carmella. Un
slip léopard horrible là.
Voilà, je pense qu'ils font leur shopping ensemble ou qu'ils rachètent. Il y a des sites où tu peux revendre les vide dressings.
C'est ça. Il a récupéré l'ancienne garde-robe
de Enzo Amore qui en change toutes les semaines.
De Enzo Amore avant qu'il fasse de la muscu. Ouais.
Donc il dit, hein, James qu'il l'a battu 3 fois et Gestage. Combien de fois ça a pris à John Cena de réitérer le même exploit. Il dit, c'est moi le Mac dans SmackDown. Laissez-moi introduire ma petite amie, mon amie fille, Carmella. Carmella qui entre, puis c'est au tour de John Cena et Nikki, hein, qui entre à leur tour. Le match n'a pas encore commencé, que la musique du Miz a retenti, accompagnée de Maryse. Ce soir, ils seront en commentaire. Carmella, qui profite un petit peu de cette interruption pour sécher son adversaire d'un énorme kick avant même que le match commence. Le match qui commence pendant une bonne coupure pub, super. Donc c'est les filles, hein, qui ont commencé les hostilités, mais justement grâce à cette coupure pub, on n'a pas vu grand-chose finalement de l'affrontement entre les deux. Donc le tag, hein, est fait. John Cena qui somme James Ellsworth d'entrée. Carmella s'en prend à John, hein, parce que James, lui, il ose pas trop. Elle se prend un bourre-pif de Nikki Bella. Protobombe de John Cena sur James Ellsworth. Le couple qui enchaîne ensuite une séquence de duo, hein, c'est la fusion entre les deux. Five Knuckle Shuffle porté par le couple. Double A, rack attack simultané. Double soumission. 1, 2, 3, victoire du couple Cena. Qui se font tout de suite évidemment attaquer par Le Miz et Maryse. Qui les éjectent du ring, qui s'emparent du micro. Et là, c'est le début d'une énorme promo qui s'étalera jusqu'à Talking Smack. Le Miz qui déclare être dégoûté de la relation mise en avant entre Cena et Nikki, que c'est un pur mensonge. Lui, il aime sa femme. Il lui a pas fait signer une déposition pour être sa petite amie, comme John Cena l'a fait.
J'étais pas au courant.
À Nikki. Oui. En fait, pour suivre un petit peu avec ma copine, on regarde un petit peu Total Divas et Total Bellas. Et ben effectivement, visiblement, John Cena a fait signer un contrat de vie commune avec. En fait, c'est plus une sorte de règlement en fait intérieur.
Ah ouais, mais c'est comme dans Big Bang Theory alors.
Ah mais en fait, John Cena est véritablement un psychopathe. C'est vraiment l'image qu'il donne. dans cette télé-réalité, alors évidemment c'est mis en exergue, hein, voilà, il y a toujours une petite part de vérité dans ce genre de choses, et effectivement c'est un gros psychopathe.
Il aime bien les choses carrées. Hein.
Avec un planning défini sur la journée, de telle heure à telle heure. Tu savais que par exemple, quand ils organisaient des dîners le soir, et ben à la fin du dîner, il y a un moment gentleman, c'est-à-dire que John Cena invite les hommes à aller dans un salon où il y a cigares et whisky, et pendant ce temps-là, les femmes sont invitées à aller dans une autre pièce pour
aller
parler. pour parler. Alors c'est la semaine de la journée de la femme, donc voilà, ça s'y prête.
Avant parler chiffon pendant qu'ils vont fumer des gros cigare, c'est ça?
Exactement, voilà, avec John Laurinaitis, hein,
ça, bien, ça
son beau-père, donc c'est assez étrange, bon voilà, toujours est-il, voilà, le Miz, hein, qui décortique cette relation et démontre tout le fake, hein, qu'il y a derrière ça, Cena qui donc, il accuse Cena, hein, de mettre en avant ce couple pour sa propre brand, sa propre marque, hein, puisque c'était un couple qui était un peu dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui, Robo Cena, alors il imite un moment John Cena, justement, John Cena le psychopathe qui est en fait un robot, hein, qui fait Nikki, I love you. Il a gagné le gros lot, hein, avec Nikki, qui est un peu une gold digger, hein, ces femmes attirées par l'argent et le pouvoir, hein, c'est une parodie d'amour, hein, qui doit s'arrêter maintenant, déclare solennellement le Miz. Maryse s'empare du micro et le balance dans la tronche de Nikki encore à terre et lui renvoie donc ça pareil en disant prends ça, bitch.
Voilà. En écho à la semaine dernière. C'est
exactement.
Ça.
Est-ce qu'on ferait pas un petit aparté sur Talking Smack?
Ah bah écoute, c'est le moment. On
qui fut le théâtre d'une incroyable promotion une fois de plus, hein, du Miz. Alors, je vais pas vous la refaire parce que sinon ça va durer une heure. Je vous invite.
Surtout qu'il a repris pas mal d'éléments du show.
Voilà, il a vraiment extrapolé et détaillé tout ce qu'on vient de dire là. Mais voilà, il s'en est encore pris à John Cena. Évidemment à Daniel Bryan également sur la fin pour faire bonne mesure, mais globalement voilà, hein, il a encore mis à l'amende le fait que voilà c'était un couple totalement fake, que John Cena avait tous les avait un passe droit évidemment, voilà il avait eu ce title shot justement, juste il suffit de demander quoi.
Oui voilà il suffit de demander.
Bref, on va pas forcément trop en parler, juste pendant peut-être notre analyse. John Cena, le lapsus, jusqu'à qu'on a dû penser. C'est lapsus. Je commence à plus savoir. Qu'as-tu pensé, voilà, de cette promo? Bon, le match était, on va dire.
Ça ne sert à rien de me flatter. je donnerai mon avis quoi qu'il arrive. La promo de Talking Smack était beaucoup plus intéressante, j'ai trouvé. Enfin, il faut vraiment que vous alliez la voir si vous l'avez pas vue. Il s'est beaucoup plus attardé sur finalement toute la partie de la promo où John Cena le traitait finalement de coquille vide un petit peu la semaine dernière.
Oui. Ouais. Vas-y, ça c'est bien d'en parler. Ouais.
Il s'est beaucoup plus attardé sur cette partie-là parce qu'à SmackDown il est resté vraiment sur la partie relation, le couple en plastique, la relation robotique. Et à Talking Smack, il a vraiment répondu à finalement la grande tirade de John Cena qui l'avait détruit la semaine dernière. Et notamment, il est revenu sur le fait que John Cena souvenez-vous, quand il est arrivé, on dit que c'était assez intéressant. Le discours du Miz était bien. Hein. Il dit oui, John Cena m'a accusé d'être une coquille vide, de m'inspirer de tout, d'avoir rien créé par moi-même. Mais on peut dire ça de toutes les superstars de la WWE. John Cena, quand il est arrivé, c'était un mix entre Vanilla Ice et je sais plus quoi, un adolescent je sais plus là. Enfin, c'est vrai que c'est quand il est arrivé, c'était quelque chose. Il lui dit que l'attitude adjustment, c'était en fait. Alors, j'ai même pas retenu d'ailleurs, parce que pour moi, l'attitude adjustment, c'était le truc de Cena, mais il a dit que c'était en fait. Non, il l'a piqué à je sais pas qui. D'ailleurs,
Tommy Dreamer.
Tommy Dreamer, voilà, exactement. Il a piqué ça à Tommy Dreamer. Enfin bref, il a répondu point par
point. Et qu'il a même volé, et ça c'était chaud, la girlfriend de Dolph Ziggler. Parlant donc de Nikki Bella, puisqu'effectivement les deux étaient en relation juste avant. Donc,
il a volé finalement, lui aussi c'est un voleur, il a pas de personnalité, patati patata. Et tout. Donc c'était vraiment pas mal. Il était comme d'habitude dans son style complètement possédé là, avec les yeux exorbités par moment. Donc il est vraiment très fort pour ça. Et il faut voir aussi la promo de Talking Smack pour la performance de Maryse qui s'est pas laissé démonter et qui elle aussi a répondu, hein, parce que c'était assez intéressant. Elle a mis en parallèle la carrière de Nikki Bella avec celle de John Cena, en disant que à l'époque où Maryse catchait, elle était la plus longue championne diva à l'époque de l'histoire. Et Nikki Bella en était réduite avec sa frangine à faire des segments, on s'en rappelle, hein, quand il y avait un défilé de célébrités à Raw ou à SmackDown.
C'était les hôtesses, quoi.
C'était toujours les hôtesses de charme. Et c'était tout, en fait, elle servait à rien, c'était des potiches. Et soudainement, quand elle est devenue la petite copine de John Cena, bah là, title shot, plus long règne de l'histoire des divas aussi, son propre show, elle est executive vice producer de Total Bella alors qu'elle a jamais rien produit de sa vie, c'est un scandale. Enfin, donc c'était pas mal. C'est des promos qui sont presque un peu too much parce qu'on a du mal à les détester après ça, mais c'était quand même du sacré level. Donc entre SmackDown et Talking Smack, on est servi hein, sur la partie orale de la rivalité, on va dire. Sur et, la partie ouais. catch, bon, on va pas en revenir sur le match, c'était...
Non, on a force, enfin, il y a, de toute façon, à, mis à part le main event, évidemment, cette semaine,
voilà.
c'était pas, catchesquement parlant, du lourd. Oh. Mais c'est vrai, là où tu as raison, où c'est difficile de les détester, c'est parce que c'est la, une des forces de cette rivalité, c'est que, bah, ce sont tous les deux disent la vérité, en fait. John Cena, quand il parle
Ils sont tous les deux très convaincants, surtout.
Ils sont convaincants et il y a une énorme part de vrai dans ce qu'ils disent, mais c'est des visions qui s'affrontent et c'est des visions de, du catch qui sont, bon, alors, surtout, si tu inclus Daniel Bryan dans l'équation, puisqu'il s'est encore une fois de plus attaqué à Daniel Bryan, sur le fait qu'il pouvait pas catcher.
Et on a eu une petite annonce subtile, enfin, en tout cas, ça a été beaucoup relevé sur les réseaux sociaux, sur le forum et tout, que Daniel Bryan à ça a répondu un peu subrepticement, c'est passé inaperçu que, bah, écoute, oui, je sais, tu me dis toujours, je peux pas catcher, ils me laissent pas catcher, on verra dans 18 mois. Bon, je sais pas ce que ça veut dire.
Ah, visiblement, 18 mois, c'est la fin de son contrat. Ouais. Ça serait la fin de son contrat. Peut-être que aussi, il espère que d'ici 18 mois, ils auront enfin trouvé une nounou. ou avoir une place en crèche, c'est ce qui est pas évident.
Non,
voilà. Mais oui, effectivement, il y a pas mal de teasing. D'ailleurs, Daniel Bryan, qui à un moment donné a balancé en disant, parce que, toujours avec par rapport au Miz, disait que voilà Cena avait failli être viré au début de sa carrière, enfin une fois qu'il avait été qui était monté dans le main roster. Ils sont pas trop attardés sur ce point-là parce que je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose qui doit être trop rappelé.
Pas. Ce sera peut-être repris peut-être plus tard dans la sur une promo ultérieure peut-être.
Et du coup, on a un petit peu creusé, enfin c'est ma copine qui a un peu creusé j'ai mes agents, mes détectives.
Elle a fait mon travail.
Elle a fait ton travail, mais effectivement tout au début peu de temps après que John Cena soit monté, visiblement ça marchait pas, il avait pas encore justement ce gimmick de rappeur blanc qui l'a porté hein, qui a vachement marché avec le public, qui venait d'arriver, il était encore peut-être dans sa gimmick un peu de prototype, hein, donc peut-être un petit peu sans saveur. Et visiblement, ça marchait pas. Et tous les McMahon voulaient le virer, Triple H et Vince inclus, sauf Stéphanie, hein, visiblement, qui était celle qui s'est levée pour défendre John Cena et qui a réussi à les convaincre. Et bon, voilà, la suite n'est que histoire et
n'est que légende.
Voilà. Donc, imaginez un monde où Stéphanie ne se serait pas levée pour John Cena. Et ben voilà, ce sera un monde.
Voilà, je serais peut-être pas là aujourd'hui.
Jessica ne serait probablement pas là puisque tu es né
en même temps que John Cena.
En même temps que John Cena tel qu'on le connaît. Bref, notre conclusion c'est regardez Talking Smack. Si vous n'avez pas encore cramé votre mois gratuit du network, c'est maintenant.
Regardez la promo d'après-match et par contre le match vous pouvez zapper. Mais on l'avait prévu la semaine dernière que ce serait un peu nul donc.
On enchaîne avec une voix qui retentit dans l'arène. Eh oui, une voix qui retentit dans l'arène. Cette voix, c'est celle de Kurt Hawkins qui interpelle Dean Ambrose, qui réclame au lunatique de venir suite à la semaine dernière où il s'était pris un Dirty Deeds. Dean Ambrose qui débarque, qui balance Kurt Hawkins, il en a rien à foutre. Il interpelle le baron. Il dit bah voilà t'es le lone wolf, le loup solitaire, mais c'est parce que tout le monde t'évite hein et que tu n'as
pas
de couilles. Super.
Et accessoirement, oui.
Le baron apparaît sur le titantron, il lui fait, mec, personne ne me dit de venir, hein, profite de ce que tu as, je vais te prendre le titre intercontinental. Ambrose lui dit, tu veux pas venir, ben moi je vais venir. Bam, Dirty Deeds au passage sur Kurt Hawkins qui venait de se relever sur la rampe d'accès. Puis Dean Ambrose donc il déambule dans tout le stade, il se prend un moment un vigile et un cours de baramine du baron, donc un coup de baron mine, on peut dire. Et ouais, il le place sous un mont de charge et l'écrase avec le mont de palette. Donc on assiste à ce moment-là une tentative de meurtre quand même hein, du baron.
Concrètement,
mais je pense qu'il va s'en tirer avec un simple avertissement.
On va lui taper sur les doigts.
Bon, rien à signaler hein, je pense sur cette séquence
C'était bien, j'ai bien.
Voilà, c'était plutôt divertissant pour qui aime voir des tentatives de meurtre
Ah, mais c'était violent et surprenant, quoi. ça fait monter l'intensité.
Ça fait monter l'intensité et descendre des monts de charge. Donc, c'est pas mal.
C'est
deux annonces qu'on en a rien à foutre. Celle de Mojo Rawley qui annonce qu'il est le premier participant au Andre the Giant Battle Royale Trophy Memorial, whatever. Dolph Ziggler qui vient et qui lui fait, mec, un WrestleMania moment, ça se mérite. L'autre qui lui répond, ah ouais, c'est peut-être pour ça que t'en as pas. Ok, super. Un peu plus tard dans Talking Smack, c'est Apollo Crews qui viendra annoncer que lui aussi, il sera, il est le participant au Andre the Giant Battle Royale, un peu dans la douleur. Il a eu un petit peu de mal, notre Apollo Crews à Talking Smack. C'est pas encore ça. Hein. Donc voilà, on est bien, on envoie nos meilleurs gains hein, à la Battle Royale, la crème de SmackDown. Hein.
C'est la crème de SmackDown. J'espère qu'on va ramener le trophée, hein, mais on a toutes nos chances.
Bon, on a déjà ramené le Rumble. Est-ce qu'ils vont équilibrer les débats?
Est-ce qu'on va faire le grand chelem sur l'année? Je ne sais pas.
Après, tout dépend s'ils nous mettent Braun Strowman dans la Battle Royale. Là, je pense qu'on n'a pas,
va être compliqué, hein.
Pas beaucoup de chance. Compliqué. Alors, on revient sur les choses un peu plus sérieuses, hein, puisqu'il s'agit de la division féminine. Alexa Bliss, ce soir, nous propose une Blissertation. Elle est accompagnée de Mickie James, donc elle va célébrer à la fois son titre et surtout elle va nous teaser sur qui elle va bien affronter à WrestleMania, puisque Naomi a abandonné le titre et que Bliss l'a récupéré dans la foulée. Mais avant ça, elle va plutôt nous parler de qui ne va pas l'affronter. Et ouais, et donc elle nous fait une petite liste hein, de tous les noms qui ne vont pas l'affronter. Donc évidemment Naomi hein, qui va s'occuper de son petit bobo, Nikki qui elle va s'occuper de son John Cena, Carmella qui va s'occuper de son petit James Ellsworth et Becky Lynch. Et là c'est là où elle balance que elle est par contre elle est comme Chucky la poupée tueuse. Elle revient tout le temps. On a beau penser que on s'en est débarrassé, elle revient tout le temps. C'est vrai qu'elle est souvent là, Becky Lynch. D'ailleurs son générique retentit. Elle a une annonce à faire. Je suis Becky Lynch et je suis celle qui va reprendre le titre à WrestleMania. Natalia également arrive. Elle snob la rookie et rappelle qu'elle a passé un deal avec Alexa Bliss. Gros lol, hein. Elle l'a juste bloqué dans un coin la semaine dernière pour lui dire.
Elle lui avait touché le nez comme ça. Là,
voilà. Si je te touche le nez, hop, title shot.
Title shot.
Ok, pourquoi pas. Bliss, alors là, qui lui lance peut-être la seule réplique, on va dire, solide de ce segment assez paresseux et pas très bien foutu, puisqu'elle balance à la Canadienne qu'elle est la The Worst There Was, The Worst There Is, and The Worst That Will Ever Be. Ouch. Donc évidemment, hein, petite reprise, petit clin d'œil à Hart, Mickie James, qui déclare alors que Bliss l'a choisi comme adversaire. Visiblement, elle a formulé beaucoup de deals, Alexa Bliss, mais ça n'a pas l'air d'être du goût d'Alexa Bliss. Daniel Bryan, donc les filles commencent à se prendre la tête, hein, voilà, elles sont un peu en mode hystérique. Daniel Bryan qui débarque, qui annonce que Alexa Bliss défendra donc son titre contre toutes les filles available du roster de SmackDown à WrestleMania et que ce soir il y aura donc un tag team player, comme disait le futur Hall of Famer Teddy Long, un match donc qui oppose Natalia et Becky Lynch à Alexa Bliss et Mickie James. La seule chose vraiment à noter, c'est que Natalia trahit sa partenaire d'un soir, Becky Lynch, avec une souplesse.
Une German
souplesse assez vénère. En tout cas, suffisamment vénère pour qu'Alexa Bliss en profite, arrache le tag à Mickie James, qui était la femme légale à ce moment-là, pour choper le tombé. Victoire donc des deux méchantes, mais Mickie James n'est pas d'humeur à célébrer cette victoire. Elle en a marre. Gros kick, swinging kick, là je ne sais plus comment ça s'appelle son kick.
Ouais, elle appelle ça son mec kick, je sais pas quoi, mic kick peut-être.
Mic kick. Mic kick.
Mic kick.
Sur la championne, donc la trahison est actée. Mickie James, Alexa Bliss, un match qui aura duré presque 13 minutes quand même. Mon bon Giscal, qu'as-tu pensé de ce match et surtout de ce programme pour WrestleMania là, peut-être un peu paresseux, mais est-ce qu'ils ont vraiment d'autres choix finalement?
Bah ouais, est-ce qu'ils ont le choix? Parce qu'au final, on a déjà un petit peu tout fait. On va dire, enfin, Alexa Bliss contre Becky Lynch, on l'a déjà fait.
Le seul truc qu'on a vraiment pas fait, c'est Mickey James, Alexa Bliss, mais...
Ouais. Ouais, mais alors c'est heel contre heel, c'est compliqué. Est-ce que...
Il faut encore un peu de temps pour changer peut-être l'alignement de l'une des deux. Quoi.
Ouais, il faut peut-être encore un peu de temps, je sais pas. Enfin, ouais, c'est un peu paresseux, je suis d'accord. Ils mettent un petit peu tout le monde. Daniel Bryan, dans son annonce, se couvre un petit peu hein, et dit il y aura toutes les femmes available du roster.
Tu sentais qu'il réfléchissait en même temps qu'il formulait la stipule, quoi.
T'avais presque l'impression que du coup, il se couvrait parce que l'annonce n'était pas vraiment. Ils n'étaient même pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire, donc du coup, ils ont dit bon. Ça, c'est assez vague, ça devrait suffire. Donc, on va dire ça. C'est bien. Alors, est-ce que c'est un moyen aussi de se couvrir peut-être d'un éventuel retour de Naomi qui pourrait faire une surprise?
Évidemment, c'est la situation, le scénario idéal pour un retour
c'est
surprise.
Ça, exactement, avec une victoire du coup chez elle, ce serait sympa et tout. Écoute, si ça aboutit à ça, moi je trouve ça cool. Sur le principe, c'est pas trop mal. Le match était plutôt bon, heureusement, parce que la promo d'avant était quand même assez cata. Là, on est retombé dans les mauvais travers des segments féminins où elles sont là, elles parlent chacun leur tour, elles attendent bien leur tour avant de parler. Il y a aucune spontanéité, il y a un sens du timing désastreux dans les répliques.
C'est une catastrophe.
Et elles se traitent en substance, elles se traitent un petit peu tous de putes, toi t'es nul, toi t'es machin. Enfin, c'est ouais, c'était naze comme propos, vraiment. Même Alexa Bliss, qui d'habitude s'en sort pas trop mal dans ces cas-là, j'ai trouvé qu'elle pataugeait un petit peu là-dedans.
En fait, Alexa Bliss, elle est bonne dans les répliques, dans ses mimiques, mais dès qu'il faut du timing, elle n'est pas forcément meilleure que les autres. En fait, il n'y a personne pour tirer vers le haut.
Et puis, alors, moi, j'ai été particulièrement horrifié par Natalia sur cette promo, mais heureux.
Elle sabote tout, hein.
Elle a la faculté de bousiller tous les segments micro dans lesquels elle participe, parce que elle a un sens du timing vraiment dans la répartie qui est désastreux. Enfin, genre, c'est une catastrophe. Dès qu'elle ouvre la bouche, ça sonne faux et c'est jamais au bon moment. Alors, je sais que c'est pas elle qui écrit ses répliques, hein, parce que c'est pas Cena, c'est pas Le Miz, elles ont pas carte blanche et tout. Donc, évidemment, on lui fait dire de la merde. Mais elle a un sens de l'acting qui est tellement pourri que. Enfin, elle fera jamais rien de bien, j'ai l'impression, au micro. Mais bon, elles ont toutes été très mauvaises.
Ouais.
Et par contre, le match relève bien. Moi, je trouvais que le match était cool. Les petites trahisons en tous les sens, ça met bien en avant le côté écoute, pendant 4 semaines jusqu'à Mania, c'est chacun pour soi. Donc ça, c'était pas mal. Et puis, écoute, maintenant, on verra ce que ça donne. Si ça peut aboutir à un retour de Naomi, je suis content. Sinon,
c'est presque l'évidence, mais c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Enfin, de mieux. Ok, toi, enfin, de toute façon, ils boucleront rien de plus intéressant d'ici Mania.
Et puis, j'ai un peu peur que de toute manière, les filles n'aient pas, enfin, quoi qu'il arrive, il n'y a pas grand chose de prévu pour elles sur la carte principale. Donc, bon, écoute, qu'elles aient toutes leurs matchs, toutes ensemble, c'est pas plus mal. Et puis, voilà, quoi. Ouais.
Mais vraiment, ça démontre, et ça fait façon, on en parle, on l'avait déjà soulevé, c'est vraiment ce côté, elles sont un peu toutes au même niveau, enfin, disons que, on est encore dans ce côté laboratoire, on sait pas trop qui va porter la division, elles ont toutes encore des lacunes sur certains points, et voilà, et à la fin, tout ça, le truc, c'est que du coup, à la fin, on n'arrive pas à avoir une rivalité suffisamment forte pour la porter jusqu'à WrestleMania, même si on pourrait toujours discuter des cartes, hein, de WrestleMania, on en fait parfois un peu trop par rapport à ce que c'est vraiment un produit à part, un événement à part. Pour autant, c'est vrai que voilà, c'est un peu le résultat de ces derniers mois où, on a eu des règnes assez courts, on a eu des promos assez aléatoires et voilà, et ça se termine en Fatal 4-Way ou 5-Way.
On a l'impression qu'on a un petit peu fait peut-être un peu, enfin non, les tag teams c'est plus un problème d'exposition, mais pour les filles on a presque un peu l'impression que on a un peu bouclé la boucle, et c'est ce qu'on se disait au moment de la draft. On se disait c'est super ce qu'ils ont fait avec la draft, la séparation des rosters, mais peut-être qu'au niveau des filles et des tag teams, c'est le fait d'avoir séparé les rosters et d'avoir créé des ceintures différentes pour ces deux divisions-là en particulier. À l'époque, en juillet, on s'était fait la remarque, on disait bon, c'est super, mais est-ce qu'ils vont tenir dans le temps, dans la durée? Est-ce qu'ils vont arriver à avoir un vivier de rivalité suffisant pour pouvoir constamment proposer des choses? Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver peut-être finalement au bout de la boucle?
Parce tu veux que dire vivement la draft, quoi.
Bah peut-être, ouais, peut-être que, tu vois, à SmackDown, on a peut-être fait au niveau des filles un peu le tour. Mais bon, la blessure de Naomi est un coup dur quand même, parce que je trouve que ça avait un peu rafraîchi, ça avait un peu rafraîchi le haut de la carte. Donc bon, on peut pas tout
je pense
condamner.
Qu'il y a une part de effectivement due au roster qui de par sa maigritude n'autorise que très peu de variations sur les interactions et les rivalités. C'est sûr que au bout d'un an il faut renouveler, toi, et donc voilà, la draft pour la peine elle sera super bénéfique pour les divisions tag team et féminines, à la fois pour SmackDown mais aussi pour Raw.
Oui,
certain, ouais. Mais c'est vrai que pour autant tu te dis, enfin, ils ont quand même des, enfin, ils ont de quoi faire tenir un an, toi, enfin. Alexa Bliss versus Mickey James, c'est quelque chose à faire.
Ça peut tenir la route. Hein. Mickey James, elle a tout à fait le bagage pour passer face assez facilement.
Mais hein, voilà, le fait est que dès que ça marche pas, ça se voit tout de suite et t'as l'impression que ça s'entraîne par le fond là, un peu en ce moment.
Alors, ouais, se tire un peu vers le bas.
Alors qu'au début, on avait trois rivalités bien construites. Et après, on a voulu un peu rechanger les trucs. On n'arrivait pas avec Becky Lynch. Elle revenait, elle était un coup dans une rivalité, mais encore un pied dans l'autre. Ouais. Et là, ça a merdé. Ça n'a jamais pris.
C'est dommage. C'est vrai, t'as raison. Il y a un mois et demi, deux mois, c'était pas mal. On se faisait la remarque. Il y avait trois belles rivalités bien distinctes. Enfin, trois belles rivalités. Il y avait trois rivalités bien distinctes. Et puis, ouais, le dernier shake-up un peu qu'ils ont fait, pour l'instant, ça prend pas. Voilà, ça prend pas.
Non, ça ne prend pas. Bon, écoute. Quelque chose qui a mieux pris, peut-être trop pris d'ailleurs, on peut en parler. C'est donc la grosse rivalité, la grosse storyline, hein, qu'on peut suivre là depuis maintenant des mois et des mois. C'était, je crois, vers la rentrée que ça a commencé.
Ah bah hein. Ça a commencé début septembre. Hein, Randy Orton, Bray Wyatt. Hein.
Exactement. Donc ce soir, on a ce fameux match de First Contender contre First Contender pour être First Contender. Randy Orton versus AJ Styles. AJ Styles, qui est pas content, il ouvre le match par une petite promo en disant qu'il a construit la build SmackDown, hein, c'est la maison SmackDown, et on m'emmerde pour ça, on met des bâtons dans les roues, alors que l'autre, là, Randy Orton, le gros psychopathe, lui, il a brûlé une maison, hein, il y a évidemment un jeu de mots, d'un gars, et il est récompensé pour ça, on lui donne un title shot, mais on marche sur la tête, Daniel Bryan et Randy Orton qui essayent de m'éjecter hein, du ring, c'est un complot évidemment. Ouais. Randy Orton qui entre sur le ring, donc début du match. Randy Orton qui va rapidement tenter de placer son RKO et qui le fera d'ailleurs à plusieurs reprises, dont une séquence formidable qui va faire le bonheur des gifs animés. Ouais. Mais AJ Styles, hein, lui par contre, va s'acharner tout le long du match sur le genou blessé, hein, visiblement de Randy Orton. Je me souviens plus à quel moment exactement ça s'est produit. Mais voilà, Randy Orton se traîne la patte, hein, littéralement. D'ailleurs, hein, il lui rend la monnaie de sa pièce, AJ Styles, parce que plusieurs fois il va le placer dans des chin locks. Vraiment, il va essayer de jouer. Il joue un peu le jeu de Randy Orton, mais un Randy Orton qui s'est sorti un peu plus les doigts du cul ce soir qu'on peut lui connaître. Teasing du Styles Clash qui ne passera pas. Dropping DDT de Randy Orton en mode dégénéré, totalement baveux, hein, quand il place son DDT là du haut de la deuxième corde, il devient souvent complètement fou à ce moment-là. RKO contré à nouveau en poly kick, springboard armé par AJ Styles, et c'est là qu'on a une séquence assez formidable, puisque Randy Orton, voyant AJ Styles s'offrir à lui, ils sont nombreux, hein, les High Flyers,
ils
à armer leur
saut,
là, on se souvient de tous les High Flyers.
Tout le monde l'a déjà pris au moins une fois.
Les gens, les High Flyers ne regardent pas les vidéos de Randy Orton.
Sauf
AJ Styles qui regarde bien les vidéos. RKO fail puisque donc Randy Orton lance le RKO mais totalement dans le vide, dans un plan totalement ahurissant. On a l'impression qu'AJ Styles se lance, mais en fait non, il retombe sur la corde, bien content de son coup, il réarme le springboard, mais cette fois-ci c'est esquivé, ça ne passe pas. Il revient dans les pattes de Randy Orton qui fait un pop-up RKO, donc il le lance et il enchaîne avec un RKO dans une rapidité d'exécution qui lui est propre. 1, 2, 3, victoire de la vipère, comme le dit Agius, dans un match de 18 minutes de folie, en tout cas bien solide, où on sent vraiment que les deux avaient une très bonne alchimie, mais qu'ils en ont encore sous le pied, hein, ça on peut évidemment en parler, travail. Puisque ouais. Beaucoup de finishers, à part le RKO évidemment, qui a fini par passer, puisque c'était la seule façon de battre AJ Styles, mais beaucoup de grosses prises de finishers ont été avortées, ouais. Et on sent vraiment qu'ils en ont encore sous le pied, un gros gros match. Fallback de tout ça, ça a été diffusé dans Talking Smack. AJ furieux qui rentre dans la fameuse Gorilla Position, hein, cette cabine où tous les catcheurs passent, par laquelle passent avant d'entrer vraiment dans le ring où ils ont les dernières directives et
avec tous les moniteurs,
les bookers, les moniteurs, les écrans de contrôle, les bookers qui sont là, les patrons,
les road agents, c'est
tout. Road Dog, Michael Hayes. Et là, il y a AJ est furieux, il s'en prend au premier C-level, si on peut dire, qui passe. Surprise, c'est Shane McMahon, évidemment. Ils en viennent presque au point, obligés d'être séparés justement par ces fameux road agents dont on a parlé. Michael Hayes et Road Dogg, et Shane McMahon est totalement furieux, il casse son clavier QWERTY, il envoie tout valdinguer, voilà, maintenant il n'y a plus de... Le brouillard se dissipe, on est sûr, on y va, AJ Styles versus Shane McMahon pour WrestleMania, on y est mon gars, c'est bon. Alors, qu'as-tu pensé jusqu'à de ce match et finalement de ce booking? Est-ce qu'on n'est pas allé, ça c'est ma question, trop loin ou pas assez loin dans cette storyline de la Wyatt Family? Je te formulerai la question autrement. Qu'est-ce que tu as pensé du match tout d'abord?
Alors, parce qu'il y a plein de choses à dire. Le match était somptueux. Enfin, alors là, pour le coup, je vais être dithyrambique, même si évidemment nous n'avons pas vu le plus beau match de l'année, mais je trouve que ce match était d'une intelligence et d'un booking qui frôlait la perfection en termes de booking, puisque les deux nous ont proposé un match de 18 minutes. Mais genre, magnifique, sans empilement de finisher, sans dévoiler finalement tous les contres de leur panoplie, toute leur prise. AJ Styles n'a pas placé de Phenomenal Forearm, il n'a pas passé de Style Clash. Il a mis son Calf Crusher et son 450. C'est là où tu vois aussi toute la panoplie qu'il peut avoir quand même, et son Pele Kick et tout ça. Mais ils ont réussi à faire un match avec des vrais near falls, sans enchaînement de finisher, un match long où ils nous ont divertis, enfin, vraiment de bout en bout. Ils en ont gardé sous le pied. Ce contre à la fin est juste exceptionnel, parce que depuis l'annonce du match, pendant toute la semaine, si tu vas sur les forums aux États-Unis, si tu vas sur Reddit, sur les réseaux, machin, tout le monde disait « Ah non, mais de toute façon, ce match, il va finir sur un Phenomenal Forearm contre un RKO, c'est sûr. » Genre, tout le monde attendait ça. Et ils ont réussi l'exploit, finalement, de faire plaisir aux gens en leur donnant pas ce qu'ils attendaient, parce que on l'attendait tellement, ce contre, que du coup ce RKO, que du coup le fait de pas l'avoir eu est presque encore plus jouissif, encore plus surprenant, parce que c'est juste magnifique. C'est la première fois, moi personnellement, que je vois un RKO contré comme ça, finalement, en faisant semblant de se jeter dedans. Parce que d'habitude, tu l'as dit, hein, tous les high flyers se jettent dedans au moins une fois dans leur carrière, c'est sûr. Que ce soit sur un crossbody ou sur un saut de la troisième corde, n'importe quoi, ils finissent toujours par avoir. Donc le finish était juste magnifique et te montre à quel point la revanche entre les deux, plus tard, on verra en 2018, enfin en 2017, on verra un pay-per-view, mais la revanche entre les deux, je pense, sera superbe. Donc le match était magnifique. Après, sur le booking de la rivalité Styles-Shane McMahon, écoute. On va pas se mentir, je suis quand même pas non plus à ce point-là maso, je suis pas enchanté à l'idée de ce match. Je j'ai pas spécialement envie d'avoir ce match sur la carte. Maintenant, si on part du principe qu'on va l'avoir, je trouve que cette semaine, il y a quand même eu beaucoup de pas dans la bonne direction pour faire que cette rivalité soit intéressante, parce qu'on part quand même de loin. On part quand même de très très loin, parce que AJ Styles, quand même, dans l'histoire, c'est très compliqué de ne pas adhérer à sa cause, en fait. Même
bien
si,
sûr. Le mec se fait flouer des semaines en semaines.
C'est le dindon de la farce. Il a gagné sa place deux fois. Il a gagné sa place, enfin, en tout cas d'après lui, hein, parce qu'il y a eu la bataille royale, il considère qu'il l'a gagné, et c'est pas faux. Et puis en plus, derrière, il gagne le match contre Luke Harper. Donc bref, il est légitime et il se voit se remettre encore dans un match contre un mec qui avait soi-disant abandonné son title shot. Donc c'est vrai que on ne peut que compatir pour le pauvre AJ Styles. Donc c'est très compliqué de pas être derrière lui dans cette affaire. Alors c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs choses, je trouve, intelligentes sur cet épisode de SmackDown. C'est que déjà, AJ Styles en fait des caisses. Il en fait beaucoup trop. Bip. Le complot, patin, machin, vous êtes tous des enfoirés, hein, j'ai porté SmackDown. Patin. Il en fait trop. Donc du coup, il apparaît quand même comme un peu un connard. Tu vois, un peu un mec détestable. Tu te dis, bah, écoute, tu ouvres beaucoup trop ta gueule. C'est un peu bien fait pour toi.
En gros, je suis d'accord avec toi, mais ferme-la.
Ouais,
quoi.
Et bon, calme-toi quand même. Parce qu'il a multiplié les interventions backstage avec Shane et Daniel Bryan, à les insulter, à leur dire... Donc il en fait trop. Et de l'autre côté... habilement, il y a eu ce petit truc inattendu dont tu as parlé en intro.
C'est
Shane
ça.
McMahon a pris position pour AJ Styles.
Le seul objectif de ça...
C'est juste ça. Hein. C'est
pour le positionner comme le face. Quoi.
Exactement, c'est juste pour ça. Donc du coup, c'était plutôt bien joué. Et alors après, moi, ce petit segment backstage qu'ils ont mis à Talking Smack, là, dans la Gorilla Position, j'ai trouvé ça vraiment super sympa personnellement.
Ouais. Enfin, c'est rare en plus. Hein,
c'est très rare de voir cette
zone.
Ouais. Et j'ai trouvé que ça donnait un côté vraiment authentique. Et AJ Styles était vraiment très très bon, je trouve, dans sa réaction. Il faisait frustré, terriblement à bout de nerfs, au bord de l'explosion.
On imagine très bien ce arriver pour de vrai, des catcheurs qui reviennent et qui sont juste vénères.
Ouais. Exactement, et d'ailleurs Daniel Bryan en parlait à Talking Smack, après il disait ouais, vous vous rendez pas compte parfois la pression qu'on peut avoir quand on est GM et tout, justement des catcheurs qui sont frustrés après leur défaite et tout, t'imagines ça comme une vraie scène de tous les jours, sauf que là le mec il vient de perdre sa place pour Mania, donc j'ai trouvé que ça faisait vraiment très authentique, très 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 bien, et que ça, c'est encore une bonne petite pierre à l'édifice de cette rivalité qui part de très loin, qui donnera probablement pas un match de ouf, mais bon.
Elle a le mérite d'être un peu mieux construite quand même que la première rivalité, enfin la première storyline de Shane McMahon.
Avec le Taker qui était catastrophique. Mais donc, si au moins elle a le mérite d'être divertissante jusqu'à Mania, cette feud, on aura au moins gagné ça. Après, le match, il sera ce qu'il sera. Il y aura autre chose sur la carte. Tout le monde y trouvera son compte d'une façon ou d'une autre sur la carte. Mais au moins, si les épisodes de SmackDown peuvent être comme ça sur cette rivalité jusqu'au bout, on se sera un peu marré. C'est déjà ça. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a du positif.
Ouais, moi en fait, je trouve que justement, ce qu'ils ont fait là, c'est bien d'un point de vue scénario, construction. Ils ont fait ce qu'il fallait à faire pour les raisons que tu as citées, au-delà de l'affiche qui fait pas forcément rêver tout le monde. Quand bien même avec AJ Styles, on obtiendra probablement quelque chose de.
Ouais, il sera capable de faire un truc bien.
Voilà, par rapport à Taker, je pense qu'on peut imaginer un truc qui sera au minimum un peu mieux en termes de.
Ouais, et puis Shane, il prend des bums de fou. Ce sera sûrement un match sans disqualification parce qu'il ne peut pas faire d'autres matchs, Shane McMahon.
Ouais, voilà, il faut rajouter une petite stipu quand même. Par contre, je trouve que là où ça a été. Où c'est dommageable, c'est pour l'autre rivalité, c'est-à-dire Orton versus Wyatt. Parce que on a trop tricoté en fait ces dernières semaines par rapport à ça, le fait d'avoir été jusqu'à mettre cette battle royale pour avoir un autre first contender. Du coup, on avait AJ Styles qui était en tant que first contender. Moi perso, je commençais à me faire à l'idée qu'elle allait avoir un match triple menace et j'étais même excité à l'idée de cette affiche inattendue entre AJ Styles et Bray Wyatt. Donc je commençais à être excité pour ça. Je me disais, tiens, cette rivalité, elle nous emmène vraiment sur des sentiers assez inattendus. Et finalement, on a tricoté tout ça pour revenir pour le détricoter en revenant.
Oui, en sens inverse.
En sens inverse, ça va être Randy Orton contre Bray Wyatt, parce qu'en fait, Randy Orton, il est revenu voir l'ARH pour dire, au fait, les gars, en fait, si c'est bon, je vais à WrestleMania. Tu me gardes ma place à la cantine. Hein. D'accord. Ça m'a un petit peu. Le Randy Orton versus Bray Wyatt, maintenant, ils ont intérêt, là, dans les semaines qui viennent, à vraiment faire monter la sauce. Et surtout du côté de Bray Wyatt, hein, du coup, qu'on n'a pas vu ce soir. Parce que là, il reste quoi, 3 semaines,
4 semaines, 3 SmackDown.
3 SmackDown, il faut que le mec il soit en mode furieux. Enfin, il faut que Bray Wyatt nous montre un autre visage suite à ce qui s'est passé.
C'est sûr que oui, moi je suis d'accord. J'avais beaucoup d'attentes sur cet épisode, sur finalement les réactions des deux hommes, hein, savoir comment est-ce qu'ils allaient réagir à ce segment absolument incroyable de la semaine dernière. Bon, on ne l'a pas eu parce qu'ils ont voulu mettre l'accent, je pense, sur AJ Styles, Randy Orton cette semaine.
C'était important.
Mais c'est vrai que je l'attendais aussi pas mal. Après,
on l'aura la semaine prochaine.
Ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté. Ils ont tellement brouillé les pistes. Ils les ont bien brouillées, ces pistes, justement. La preuve, c'est que finalement, ils nous ont détourné. Ils ont détourné notre attention de ce qui était, mine de rien, l'inévitable en quelque sorte dans cette histoire. C'était Randy Orton versus Bray Wyatt. On est un petit peu dans le syndrome de l'aveuglement avec Goldberg et Kevin Owens, on a beau vouloir imaginer plein de choses qui pourraient être incroyables, et ils ont beau nous teaser plein de choses avec Jericho, avec Lesnar, avec les trucs, inévitablement la logique, l'histoire, on se précipitait vers le squash de Kevin Owens, c'était sûr. Et là, cette histoire de 6 mois, depuis le début, on nous raconte que ça va se terminer entre ces deux hommes-là. Donc, en quelque sorte, je ne peux pas être déçu de ça, parce que c'était l'histoire depuis le début. Enfin, c'était ça, c'était le endgame, c'est la fin du jeu. C'était la bataille contre le boss final, Bray Wyatt pour Randy Orton. Donc, il y a une part d'inévitable qui moi, fait que je ne peux pas être... Je peux être complètement déçu. Après, ils ont fait un tellement bon travail, moi, personnellement, je trouve, un tellement bon travail de brouiller les pistes et de croiser les rivalités, de faire des rebondissements chaque semaine pour nous détourner de tout ça, que du coup, à force de te faire miroiter des affiches qui auraient pu justement te... Parce que nous, on aime bien... C'est un peu notre défaut aussi, parce que vu qu'on lit tout en profondeur et qu'on analyse tout et qu'on voit un petit peu les choses arriver, entre guillemets... Peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'on est au-dessus dans la façon d'analyser que le commun des mortels, mais tu vois, on se perd un peu parfois dans nos analyses, ce qui fait que finalement, quand on a l'impression qu'on va peut-être aller vers autre chose et que
oui,
ça va trop,
bien sûr.
Ça nous plaît plus parce que du coup, on se dit « Ah yes, c'est pas si cousu de fil blanc que ça ». Mais bon, mine de rien, l'histoire est ce qu'elle est, et c'était un peu…
Oui, il ne peut y avoir qu'une histoire, il ne peut pas y en avoir des millions. Voilà. Donc
s'ils avaient prévu ça depuis le début, c'était sûr. Après je suis d'accord, ça aurait peut-être été sympa de voir AJ Styles là-dedans, mais… Bon, il faut que Bray Wyatt et Randy Orton finissent leur affaire, quoi. Il faut qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes.
Bien sûr, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la fiche qu'il faut, hein, évidemment. Il y a pas de souci. C'est vraiment c'est la construction de ces dernières semaines qui était, je trouve, ils en ont trop fait parce que en termes de timing, vraiment la trahison
c'était très, très spécial. Ouais, ça.
C'était, je sais pas, trop tôt, trop tard. Il y a une question de voilà. Après. Mais bon, maintenant il reste plus beaucoup de temps. Ils sont peut-être
trop. Qui revient beaucoup, le timing de la trahison. C'est vrai que c'est reproché par beaucoup. Ça a manifestement fait tiquer, c'est vrai, ce timing. On peut se poser la question de savoir est-ce que c'était le bon moment, est-ce que ça aurait pas été peut-être juste avant Mania pour faire genre un coup de théâtre final
juste avant ou alors un peu plus tôt sans mettre cette histoire de AJ Styles dans le lot. Mais bon,
À partir du moment où ils avaient fait rentrer AJ Styles dedans, ils étaient obligés de le faire sortir proprement, entre guillemets, quoi,
bien sûr.
Et du coup, ils l'ont bien expliqué au début, hein, et c'est aussi pour ça je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps au début de l'émission à bien tout réexpliquer, les tenants, les aboutissants.
Ils se sont dit un catch-up, ils vont pas nous louper, alors il faut bien qu'on leur explique que on a bien réfléchi, que effectivement on est conscient que c'est un peu compliqué, voyez-vous, mais voilà.
Il y a eu la bataille royale, on n'avait pas le choix, c'était obligé parce qu'il avait abandonné, tout ça. Donc bon, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas complètement en désaccord. Ouais.
Et ben c'est comme ça en tout cas que se termine donc se terminait SmackDown, hein, qui était ben voilà, on a vraiment centré sur les grosses rivalités du moment. On a laissé un petit peu de miettes aux filles. Et puis voilà, hein, donc.
Puis alors les équipes, alors là.
Ah bah alors attends, ça, en fonction de ton top et ton flop, ce sera peut-être l'un des miens. Justement, le mot de la fin, Giscard. Donc ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Eh ben mon top, je vais le donner à AJ Styles pour son contre absolument sublime, hein, du RKO qui était, et puis la tête qu'il fait après, hein, la tête, la langue entre les dents là, à dire
tellement content de son coup.
Je l'ai bien eu et tout, et puis j'ai eu tout le monde, c'est que j'ai eu tout le monde dans le public, c'est ça qui était fort.
Vous devant votre écran, je vous ai eu.
Donc superbe contre et mon flop, écoute, je vais le donner à Natalia, mais ça aurait pu être toutes les filles, mais je vais le donner à Natalia qui, avec ce don qu'elle a de transformer l'or en plomb, en tout cas les segments en plomb au micro. Donc voilà. Et puis ma note, je vais quand même être assez sévère cette semaine. Je vais mettre un 3 sur 5. C'est sévère pour moi, hein. parce que au niveau du catch, à part le main event, c'était ultra, ultra faible quand même. Ça fait plusieurs fois qu'on se le dit. Et puis les promos, c'était très 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 axé aujourd'hui main event, très axé main event, avec à cheval sur Talking Smack un peu du temps pour Cena et Miz. Et sinon, à part ça, Corbin Ambrose, ils nous ont quasiment fait une redite avec un rajout scénaristique de Brawl derrière. Ouais. Les filles, c'était quasi néant et il n'y a pas d'équipe. Donc ouais, c'était quand même un peu mou du genou, mais bon. J'ai quand même encore passé un bon moment, donc on va mettre au-dessus de la moyenne, on va mettre 3.
Moi, mon top, eh ben, ce sera la promo du Miz, mais je vais tricher un petit peu à cheval sur SmackDown et sur Talking Smack, tu peux pas les séparer, en fait. Hein.
Non, c'était vraiment la continuité.
Ouais, incroyable. En flop, eh ben, c'est cette intro là, des boss de 10 minutes... juste après avoir fait un package vidéo pour nous expliquer ce qui s'est passé, avoir les mecs qui viennent pour nous expliquer la vidéo qu'on vient de regarder. Pff, come on. Non,
c'était roesque.
Ouais. Et ma note, c'est 2,75 si vous n'avez pas le network et 3,25 si vous avez le network et que donc vous pouvez regarder Talking Smack.
Il était excellent cette semaine.
Exactement. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun épisode, que ce soit le supplément SmackDown ou nos copains de Catch Up Pro ou les pay-per-view, les reviews de Fastlane par exemple, nos pronos. Voilà, vous abonnez, comme ça vous ne manquez rien. Vous pouvez nous suivre sur YouTube si vous voulez voir la vidéo. Voilà, avec nos têtes dedans, ou alors sur iTunes ou PodCloud, hein, si vous voulez la version originale, le podcast audio, voilà, c'est bon pour vos cages à miel. vous pouvez également nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux, tel un robot comme John Cena, avec Twitter et Facebook, Catch-up CDC pour les deux. Retrouvez-nous également, hein, une partie de l'équipe sur les CDC, les cahiersducatch.com, avec pas mal d'articles, évidemment, surtout à l'approche de Mania, et le forum pour taper la discute. N'oubliez pas de commenter, n'hésitez pas à balancer vos tops, votre flop, votre note, que vous avez aimé, pas aimé, dans l'épisode ou dans le supplément, hein, peut-être que, voilà.
Mais ça m'étonnerait, mais bon.
Ouais. Ah, bon, on fait de notre mieux après tout. Ouais. Partagez aussi, n'hésitez pas à partager dans votre entourage ou dans la rue, hein, criez-le, allez à la boulangerie, mettez des petits mots. Voilà, entre l'annonce de Nounou et le mec qui revend sa Clio 2. Notez, mettez-nous des notes, mettez-nous des pouces. Eh ouais, nous on aime ça quand vous nous mettez des pouces. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi, Giscal.
Merci, Jérém.
Voilà, et merci à tous nos auditeurs et nos auditrices de nous suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Et à donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Ciao.
Il était fan des Patriots et fan du PSG, alors je peux te dire que là, c'est les montagnes russes pour lui.